France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Gaëlle Octavia. J'ai retrouvé dans L'étrangeté de Mathilde T les mêmes qualités qui m'avaient tellement plu sur vos romans précédents, en particulier l'empathie que vous faites partager à vos lecteurs pour les personnages, même les moins fréquentables. Ils gardent toujours quelque chose d'humain qui est très appréciable.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une jeune femme à la beauté très 19e siècle, une grand-mère aussi prompte à empoisonner qu'à aimer, deux petites filles aux origines trompeuses, un ange vengeur, des sœurs réconciliées pour contrer la violence, une femme de ménage moins effacée qu'il n'y paraît, un tour de Martinique en voiture, une algorithmique de la relation, on trouve tout ça et plus encore dans le recueil de nouvelles au programme de votre book club aujourd'hui. Gaëlle Octavia publie L'étrangeté de Mathilde T aux éditions Gallimard, collection Continent Noir, et elle est notre invitée. Vers 15h50, comme chaque mercredi, c'est Mathilde Wagman que l'on retrouve pour Lecture Jeunesse aujourd'hui. Elle évoque les personnages grands, ronds et tout mous, Casimir, Totoro et autres Barbapapa. Et en fin d'émission, nous jouons avec vous à chercher, trouver de la musique dans les livres. C'est le grand jeu des pages musicales. On est parti pour une heure. On est ensemble. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Gaëlle Octavia.
Bonjour Marie.
Votre recueil de nouvelles s'appelle L'étrangeté de Mathilde T. Je l'ai dit, il a paru dans la collection Continent Noir aux éditions Gallimard. Ce sera au cœur de notre conversation tout à l'heure, mais ici tout commence par un portrait. On parle d'abord de nos invités en tant qu'ils sont lectrices ou lecteurs. Est-ce qu'ils ont rencontré ou pas des livres sur leur chemin, depuis quand et qu'est-ce que ça leur a fait? On commence souvent par l'apprentissage de la lecture. Est-ce que vous en gardez un souvenir? Est-il bon, est-il mauvais?
Il est excellent. La lecture a été vitale pour moi, qui était une petite fille très timide, très peu sociable. Donc j'ai très vite noué des grandes amitiés littéraires avec des personnages de fiction et avec des auteurs, avec leurs auteurs aussi en fait. Je me suis très vite, je pense, sentie proche des auteurs que j'ai essayé de singer évidemment.
Vous vous souvenez avoir tout de suite compris qu'il y avait des personnes qui écrivaient les textes?
Je crois, oui, quand même. Oui. Et je m'intéressais à savoir qui c'était, je crois, assez tôt aussi, ces auteurs. Parce que je me sentais très proche de leurs personnages. Et justement, j'étais assez étonnée, parce que bien souvent, c'était des gens qui n'étaient pas du tout proches de moi.
Oui, c'est ça. Qui fabrique ce truc dont je me sens si proche?
Voilà. Et par exemple, enfant, je me suis passionnée pour la comtesse de Ségur, par exemple. Et on ne peut pas faire plus éloignée de moi qu'une comtesse du 19e siècle, d'origine russe en plus. Et pourtant, elle me parlait vraiment.
Alors, où est-ce qu'elle vous parlait? À quel endroit elle vous parlait, par exemple, la comtesse de Ségur?
Je pense qu'elle me parlait. En tout cas, le personnage de Sophie, par exemple, qui est assez proche d'elle-même finalement. Je crois que c'est sa quête de liberté, sans doute, qui me parlait. Alors Sophie et moi étions des petites filles très différentes. Moi, j'étais très obéissante et plutôt une petite bonne élève, etc., etc. Donc pas comme l'espiègle et la terrible Sophie. Mais si on n'est pas allé chercher la liberté au même endroit, Sophie et moi, en tout cas, je pense qu'on avait ce besoin d'être nous-mêmes, qui était peut-être entravé de manière différente chez l'une et chez l'autre.
Est-ce que vous l'avez trouvé dans les livres, la liberté?
Oui, j'ai trouvé une grande liberté, j'ai trouvé un espace qui me manquait. En plus, j'ai grandi sur une île, la Martinique, donc ce caractère insulaire, je pense, est très présent. Et même enfant, on peut le ressentir. Et les livres vous ouvrent des géographies.
C'était ressenti comme une limite quand vous dites ce caractère insulaire pour vous?
Alors, non, parce que je m'auto-limitais. J'étais une enfant timide, donc très enfermée, en fait. J'étais beaucoup dans ma chambre. Je n'avais aucune envie d'en sortir. Mais justement, cet enfermement n'était pas une souffrance pour moi parce qu'il y avait les livres et parce qu'avec les livres, j'allais où je voulais.
Est-ce que vous avez grandi dans une maison où il y en avait, des livres?
Oui, mes parents lisaient déjà beaucoup quand j'étais enfant. Donc oui, il y a toujours eu des livres. Et j'ai toujours eu envie de lire, par exemple, je sais que dans la bibliothèque de mes parents, il y avait parfois des livres, je savais bien qu'ils ne m'étaient pas destinés, qu'ils n'étaient pas accessibles.
Vous pensez à quoi, par exemple ? Que vous aviez repéré comme tel ?
Oui, alors j'étais attirée, j'ai pas forcément des souvenirs précis, mais je sais qu'il y avait des couvertures qui m'attiraient. D'ailleurs, je suis sensible aux belles couvertures. C'est un autre sujet, mais les couvertures des livres français sont souvent assez tristes.
Disons qu'elles sont graphiques, elles sont sobres, voilà. En fonction des goûts, on peut dire
mais
ça.
C'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir été arrêtée. Alors, je vais pas pouvoir forcément vous citer des titres, à part peut-être, mais ça c'est venu plus tard, Moi, Tituba, sorcière noire de Salem de Maryse Condé, dont la couverture m'a attirée. Mais bon, là, j'avais 16 ans, donc en fait, je l'ai lu, du coup, j'ai pu. Mais je sais qu'enfant, parfois, je voyais des livres comme ça. Je savais que je ne pouvais pas les lire, mais j'avais envie, en fait. J'avais envie de plonger dans ces choses-là.
On va attraper au vol Maryse Condé et Moi, Tituba, parce que ça fait partie des textes que vous citez souvent, notamment comme des textes auxquels vous revenez, Gaëlle Octavia, des textes que vous relisez. Avec lui, il me semble qu'il y a aussi un texte de Toni Morrison. C'est quoi cette pratique de la relecture et vous retournez où quand vous rouvrez ces livres-là ?
Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas relu, à part quand on me demande dans une émission de lire un passage. Mais je le fais moins qu'avant.
Mais vous l'avez fait ?
Mais oui, il y a une époque où je relisais énormément. Parce que justement ces livres, donc Moi Tituba sorcière ou Tar Baby de Toni Morrison par exemple, ou d'autres, des livres de Stefan Zweig par exemple, que j'ai beaucoup relu, le joueur d'échecs, je l'ai relu, je pense que c'est des livres qui me tenaient compagnie et qui étaient non seulement un peu comme des amis, vraiment des présences, et puis aussi des manières de me reconnecter à moi-même vraiment. Ce sont des livres qui m'ont tellement construite, ou en tout cas, ou dont je me sens tellement proche, pour des raisons que je ne saurais pas toujours expliquer, parce qu'effectivement...
Et du coup, vous rejoignez cette partie de vous-même qui a été émue par un texte.
Absolument, absolument, oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que la lecture occupe une grande place dans votre vie ?
Pas autant que je vous le voudrais, parce que j'ai moins de temps, je dispose de moins de temps qu'à... Enfin, je ne me rendais pas compte quand j'étais jeune de cette liberté que j'avais de lire à peu
mais
près.
Vous aviez peut-être autre chose à faire.
Quand je voulais, tous les soirs si je voulais, jusqu'à n'importe quelle heure de la nuit. Maintenant, alors c'est très précieux pour moi de pouvoir lire. Par exemple, c'est le seul intérêt des transports en commun, c'est de pouvoir lire. Voilà. Mais j'ai un besoin de lire tous les jours. Mais je pense qu'il y a des jours où je n'ai pas le temps, malheureusement.
Est-ce que vous avez un rendez-vous avec une œuvre, avec un texte, quelque chose qui sera un horizon de lecture pour vous ?
C'est-à-dire quelque chose que je prévois de lire bientôt ?
Oui, ou bien que vous prévoyez, mais prévoyez, ce serait presque trop fort, dont vous imaginez qu'un jour vous les lirez. C'est un peu plus vague.
Ah.
Ouais. Vous aimeriez peut-être un jour.
Alors, en tout cas, j'ai des lacunes.
Ah, mais c'est pas pareil.
Oui, mais en fait, c'est aussi des rendez-vous parce que je sais qu'il y a des grands écrivains que je n'ai pas lus, comme Faulkner, par exemple. J'ai pas lu Faulkner. Je suis sûre que ça va me plaire. Enfin, en tout cas, voilà, quand j'entends des gens en parler, je me dis mince, j'ai pas lu ça, quoi. Et j'ai hâte. J'espère que je serai pas déçue. Et puis sinon, des envies, des choses. Oui, quand je vois qu'un écrivain que j'aime, par exemple, j'ai vu là que Chimamanda Ngozi Adichie vient de sortir un roman et qu'il est déjà traduit en français. En tout cas, je ne sais pas si la traduction est sortie ou va sortir. Donc évidemment, ça, je suis dans les starting blocks pour
parce que vous avez aimé précédemment la lire.
Voilà, tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez aimé dans ces romans ?
Alors, j'ai aimé ces romans et j'ai aimé ces nouvelles aussi, parce qu'elle a aussi un recueil de nouvelles qui s'appelle Autour... Alors, je ne sais jamais si c'est Autour de ton cou ou Autour de son cou. C'est un merveilleux recueil de nouvelles. C'est peut-être ce qu'elle a écrit de plus beau, selon moi, à égalité avec L'autre moitié du soleil, qui est le roman que je préfère de ses romans. Voilà, mais j'ai lu tous ses romans.
Donc deux grands rendez-vous de lecture.
Ouais, voilà.
Le dernier de Adichie et tous les Faulkner.
Enfin, tout, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais tout ce que je pourrais, oui.
C'est pas mal, pas mal déjà. On va parler de votre livre à vous, tout de suite après ce morceau, d'une chanteuse qui s'appelle Alani. Elle est britannique, elle est londonienne et ses parents sont originaires de Grenade, un état insulaire de la mer des Caraïbes. Et la chanson, très belle, s'appelle To the River.
Someone left me all alone.
France Culture,
yes, we all go,
le Book Club,
to the river.
Marie Richeux.
Qu'est-ce qui tient les nouvelles d'un recueil ensemble ? Pour celui qui nous occupe aujourd'hui dans votre Book Club de France Culture, ce serait une façon de construire les personnages féminins, une façon inattendue des personnages aux multiples possibilités de violence, de tendresse, dont la force rencontre le rire et le rire nourrit la force. Les femmes, les sœurs, les vieilles, les amies, les bébés, que vous mettez en scène dans vos textes, Gaëlle Octavia, ont cela en commun de ne pas être effrayées, a priori, par l'obscurité et la mort qui rôdent en elle, y compris quand cette obscurité ou cette mort cohabite avec la merveille de la maternité ou le délicieux du désir sexuel. Elles ne sont pas tant étranges, comme le suggérerait le titre de votre livre, elles sont en contact avec l'étrangeté ou l'étrangère qui les habite. On parle de ce recueil paru aux éditions Gallimard et de l'imaginaire qui le nourrit. Avec vous cet après-midi, Gaëlle Octavia. Alors peut-être parlons de ce mot-là que vous avez choisi, probablement avec un éditeur ou une éditrice, l'étrangeté de Mathilde T. Puisqu'il y a l'idée d'emblée d'avoir affaire avec quelque chose, en effet, de l'étrangeté. Et moi, j'ai plutôt trouvé que c'était pas tant l'étrangeté que une inquiétante étrangère en chacun ou en voilà.
Oui, alors le titre « L'étrangeté de Mathilde T », c'est aussi le titre de la première nouvelle du recueil. Et ce titre est né en fait de mon regard sur ma propre étrangeté, en tout cas l'étrangeté qui est la mienne dans le regard des autres. C'est compliqué.
Non, non, c'est très clair. L'étrangeté à laquelle vous êtes renvoyée par
voilà, l'étrangeté à laquelle je suis renvoyée. En fait, cette histoire et ce personnage de Mathilde T me sont venus... Quand je suis arrivée à Paris, moi j'ai grandi en Martinique, je suis arrivée à Paris pour faire des études, après le bac donc. Et j'ai grandi donc en Martinique, alors département français, dans l'idée que j'étais française. Cette idée que j'étais absolument française est cohabitée, sans que ce soit une contradiction pour moi, avec le fait d'être absolument caribéenne aussi. Nous avons cette double appartenance et j'étais assez tranquille avec cette idée-là.
Là-bas.
Oui, je ne la questionnais absolument pas là-bas. Et arrivée en France, hexagonale, la première question que tout le monde me posait, c'était « d'où venez-vous ? » Et je me suis dit, ah, donc pour ces gens, je suis étrange. Je suis étrangère ou étrange. Et je me suis beaucoup amusée de cette étrangeté. Et pour moi, cette étrangeté a été assez facile à habiter, en réalité. Ce n'est pas quelque chose qui me vexait, par exemple.
Vous aimiez répondre à la question « Où es-tu ?»
En tout cas, je savais y répondre déjà. Mm. Contrairement, par exemple, à beaucoup de personnes noires, disons le mot, qui sont nées en France, dont les parents parfois sont nés en France. Mm. Donc, par exemple, des gens qui sont d'origine immigrée, mais de deuxième, troisième, quatrième génération, et à qui on continue de demander ou à qui on dit genre, très gentiment « Rentre chez toi ». Eux, le chez eux, c'est la France, quoi, la France hexagonale. Moi, j'avais une réponse. Hein. Je pouvais dire, oui, chez moi, c'est la Martinique, je viens de la Martinique, etc. Ou parfois, je demandais aux gens, devinez, je viens d'où? Évidemment, on m'attribue toujours des origines qui ne sont pas, qui sont tout sauf la Martinique.
Dont vous jouez dans les fictions, d'ailleurs.
Oui, ça m'amuse. Mais ça m'amuse. Mais en tout cas, et déjà, à l'époque, en arrivant, c'est pas quelque chose qui me, parce que je ne rencontrais pas de personnes hostiles. Donc, c'était une curiosité, voilà, gentille. Donc
l'étrangeté, c'est d'abord celle-là. C'est d'abord celle-là.
Voilà. Et en fait, ce personnage de Mathilde T, c'est le négatif de ça. C'est une jeune femme, pour le coup, franco-française, blanche, tout ce que vous voudrez, qui voudrait être originale. Et ce miroir de, parce que quand je suis arrivée pour faire mes études, effectivement, je voyais des filles qui se teignaient les cheveux en violet ou qui avaient des piercings, des trucs, des machins, toutes sortes de choses pour se singulariser. Et moi, j'étais singulière sans le moindre effort, en étant juste moi-même. Et je trouvais ça assez marrant, finalement. Donc, cette nouvelle est née de toutes ces réflexions aussi sur qui est étrange, en fait. Et voilà.
Et comme elle est la première dans le texte et que l'étrangeté est le mot qu'on rencontre tout de suite quand on tient le livre dans les mains, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui teinte à la lecture. Est-ce que vous diriez que c'est une sorte de fil qui pourrait tenir les nouvelles ensemble? En fait, c'est pas obligatoire, mais quand on est avec un recueil de nouvelles, il y a toujours ce geste-là qu'on fait en tant que lecteur ou lectrice. On veut trouver un chemin, alors que bon...
Oui, en fait, en tout cas, si j'ai réuni ces nouvelles-là, parce que j'ai écrit plein de nouvelles dans ma vie,
et des pièces de théâtre,
des pièces de théâtre, mais en tout cas, j'ai rassemblé ces nouvelles-là parce que pour moi, effectivement, elles se tenaient, elles avaient un fil conducteur commun qui n'est peut-être pas, exprimable en quelques mots ou en une définition, mais il y avait quelque chose, il y avait une atmosphère, il y avait quelque chose, donc peut-être que le mot étrangeté est ce fil rouge, peut-être que c'est autre chose, mais oui, il y a en tout cas, chez tous les personnages, qui sont souvent des femmes, une nécessité de faire avec une forme d'étrangeté.
On va y venir, évidemment, mais avant ça, on va s'interroger, parce que je le disais tout à l'heure à Aliette, ces choses rares qu'on traite ici, trop rares probablement, de recueil de nouvelles. Donc on va s'interroger sur cette forme-là, à la fois de la nouvelle et du recueil, grâce à deux archives, Véronique Ovaldé en 2024 et François Sagan en 1976.
Dans la nouvelle, la brièveté du genre, ça permet de révéler les erreurs d'aiguillage. Et donc, on installe une situation anodine, une situation normale, et puis ça va nous permettre de révéler quelque chose de l'ordre aussi de l'opacité de ce qu'on ne connaît pas des gens, ce qu'on ne connaît pas de ce qu'ils ne connaissent pas de nous. Je trouve que c'est vraiment une forme de laboratoire portatif, la nouvelle. Portatif parce que quand on l'écrit d'ailleurs et quand on la lit, on voit en fait que les écrivains qui s'adonnent à la nouvelle, ils tentent des choses avec la nouvelle. Parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même enjeu aussi.
Ça prend pas beaucoup de temps d'écrire une nouvelle. Il y a un début, une fin, on va du début à la fin et c'est fini. Un roman, le trajet est beaucoup plus long. C'est comme prendre un Boeing ou prendre un gros paquebot de plaisance, c'est pas pareil. Quand on prend une nouvelle, on sait comment ça va finir, c'est obligé. Un roman, on ne sait pas forcément ce que vont faire les héros. C'est un genre que j'aime assez, moi, ça distrait beaucoup. Bon, il faut simplement savoir la fin. Il faut retomber sur ses pieds, comme ça va se faire assez vite, il faut à peu près imaginer comment ça va finir.
François Sagan dans cette archive de 1976 et juste avant La voix de Véronique Ovaldé en 2024, ici au Book Club, Gaëlle Octavia, vous qui avez l'expérience d'autres formes littéraires, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ces deux voix-là, deux voix d'autrice, pour dire ce qui se joue dans votre choix de cette forme de la nouvelle?
Alors, pour moi, c'est un peu un exercice d'équilibriste, la nouvelle, justement. Alors, j'adhère tout à fait à ce qui a été dit par Véronique Ovaldé ou François Sagan. J'ajouterais que... Alors, contrairement à Françoise Sagan, moi, je ne connais pas la fin de mes nouvelles avant de les écrire.
Ça ne m'étonne pas.
J'aime être surprise j'aime pas que ça soit trop prévisible. Je ne voudrais pas que ça soit trop prévisible.
Vous ne voulez pas savoir où vous allez. Elle dit précisément, parce que c'est bref et court, il faut savoir où on va.
Alors non, mais même si on ne sait pas où on va, en fait, on construit... C'est comme si on filait... Le fil sur lequel on est en train de marcher en tant que funambule, c'est très étrange, mais c'est un petit peu ça qu'on fait. Donc on ne sait
pas... Mais ce serait différent de l'écriture romanesque, parce que c'est aussi une expérience qui pourrait arriver dans l'écriture romanesque.
Oui, alors quand j'écris un roman, je ne connais pas non plus la fin. Mais dans un roman, on a beaucoup plus de temps pour poser les choses, pour se rattraper aux branches si jamais on commençait à tomber, pour se dire, oulala, là, il y avait une rivière, donc il va falloir faire un pont, etc., etc. Dans une nouvelle, effectivement, on a très peu de temps pour installer les choses et pourtant, il faut que ces choses soient solides. Et c'est là, je trouve, toute la difficulté et tout l'intérêt aussi. Moi, j'aime beaucoup cet exercice.
Véronique Ovalde parle d'un laboratoire. Est-ce que ça vous intéresse aussi, cette idée-là? Comme c'est court, peut-être aussi comme... Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais peut-être qu'on y engage moins de temps, un travail de moins longue haleine. Est-ce qu'on y tente des choses?
Oui, bien sûr. En fait, on peut rater. C'est-à-dire qu'on écrit des nouvelles. De temps en temps, elles sont réussies. De temps en temps, elles sont ratées. Une nouvelle ratée, ce n'est pas quelque chose qui vous a pris 3 ans de votre vie. Mmh. Alors que vous pouvez mettre 3 ans ou plus dans un roman qui, à la fin, est raté. C'est horrible.
Mmh. Et vous avez cette pratique de l'écriture des nouvelles en parallèle de tout le reste. Vous êtes tout le temps en train d'écrire des nouvelles?
J'écris assez souvent des nouvelles. Alors, je ne peux pas dire que je suis tout le temps en train d'écrire des nouvelles, mais ça me vient assez... Oui, j'en écris au moins une par an, ou plus que ça, oui. Parce que ça vient aussi, c'est une étincelle, c'est quelque chose qu'on saisit, c'est un objet, c'est une conversation qu'on entend dans le métro, c'est quelque chose ou quelqu'un qu'on voit dans la rue qui nous inspire une histoire, ou un quartier... qu'on traverse et on se dit, ah, on voit quelque chose qui se passe dans ce quartier et que là, qu'on rentre chez soi et on griffonne quelque chose.
Alors justement, dans cette émission de 1976, qui s'appelait à l'époque La Renaissance de la Nouvelle, où on entendait Françoise Sagan, un autre auteur, Gilbert Cesbron, qui a publié à l'époque un recueil qui s'appelle Mourir étonné, super titre, parle de la source d'inspiration de la nouvelle.
Vous savez, il y a une phrase d'Andersen qui est magique pour moi, qui est la suivante. « Maman prétend que tout ce que tu regardes peut devenir une aventure. » C'est vrai. Pour moi, c'est vrai. Quelquefois, mais dans le métro, dans la rue, n'importe où, brusquement, on voit quelque chose qu'on a peut-être déjà vu 10 fois, mais ce matin-là est un jour de grâce, et alors, brusquement, l'histoire naît, aussitôt, mais aussitôt. Il suffit d'un visage et toute l'histoire est faite. On aurait envie de sortir du métro, de descendre, de se précipiter et de l'écrire. Tout ce qu'on rencontre peut devenir une aventure, ça c'est vrai.
Gilbert Cesbron, en 1976, sur le matériau, sur le moment déclencheur de l'écriture, comment ça se passe pour vous, Gaëlle Octavia? Et est-ce que ça se passe toujours de la même façon? Vous avez dit avoir réuni ici dans ce recueil plusieurs nouvelles, on imagine qu'elles n'ont pas toujours été écrites au même moment. Comment ça se passe pour vous?
Oui, elles ont été écrites à des périodes tout à fait différentes. Donc, l'étrangeté de Mathilde T, donc l'idée m'est venue quand j'étais donc en maths sup à Paris, donc il y a très longtemps. Je suis arrivée à Paris en 95 et j'ai eu envie. Alors, évidemment, j'étais en classe préparatoire, j'avais pas forcément beaucoup de temps pour écrire. C'est peut-être la seule période de ma vie où j'ai quasiment pas écrit. Mais j'avais commencé à jeter quelques idées. Des sensations, des choses qui ont nourri cette nouvelle, qui a d'abord été un roman d'ailleurs, enfin bref, pour le coup qui était vraiment bon pour la poubelle, donc mais j'ai gardé le personnage, voilà, j'ai pas jeté le personnage de Mathilde T, et finalement j'en ai fait cette nouvelle, donc voilà, Mathilde T me vient de très loin dans le temps.
Et là, c'était par exemple, en l'occurrence, c'était la vision d'une jeune femme réelle ou pas nécessairement?
Alors, elle est un petit peu inspirée par une de mes camarades de classe, oui. Mais évidemment, j'ai beaucoup romancé. Ouais.
Parce que quand Cesbron dit « tout peut devenir une aventure fictionnelle », ce serait une sorte de mélange entre le visage de cette camarade et le sentiment dont vous parliez, c'est-à-dire l'étrangeté ou la qualité d'étrangère qui vous étiez renvoyée à cette époque-là, étudiante.
Oui, voilà, c'était ça. Par exemple, la nouvelle qui s'intitule Marie, qui parle de donc cette aide ménagère. Là, c'est tout simplement une grève de transport dans le métro. Donc, c'est la scène finale de la nouvelle. Le personnage est né de ça. J'ai vécu cette grève de transport et je ne sais pas pourquoi. Après, j'ai imaginé cette femme de ménage qui devient une espèce de guerrière comme ça dans un métro bondé. Parce que les gens, effectivement, dans des situations un peu critiques comme des grèves de transport, les gens peuvent avoir des comportements complètement dingues. Donc qui, moi, m'amuse, en fait. C'est l'avantage, peut-être, quand on écrit, c'est qu'on se saisit de choses qui, peut-être, pour les autres personnes, sont juste des moments désagréables ou des choses qui servent à rien. Violente, c'est du quasi-vécu, bon, sauf que je suis pas allée jusqu'au passage à l'acte. mais voilà, on se fait importuner par un type.
Ça devient une potentielle matière fictionnelle.
Alors, pas systématiquement. Mais en tout cas, ça peut arriver. Et effectivement, il se trouve que de ça, j'ai tiré cette nouvelle.
Et est-ce que ça veut dire que c'est votre rapport au monde ? Est-ce qu'il y a, dans votre lecture du réel, dans votre manière de le lire, une sorte de sous-couche de fiction ou de sous-couche d'écriture permanente ? De sous-couche ou de surcouche, d'ailleurs, ou d'horizon,
je sais pas. Alors, c'est pas volontaire, c'est-à-dire, je suis pas en alerte en me disant, faut que j'observe bien parce que je vais écrire avec. Mais ça me prend, quoi. C'est une démangeaison. Faut dire ça. Il y a des situations, des choses, des objets, des gens. Je les vois et ben, je rentre chez moi et j'écris quelque chose. Et d'autres qui m'inspirent rien du tout. Voilà, c'est pas du tout quelque chose de contrôlé. Mais c'est vrai que ça peut venir à n'importe quel moment et de n'importe quoi. Oui.
Vous évoquez cette nouvelle qui s'appelle Violente. On va lire un premier extrait de votre recueil.
Ils font leur entrée dans la brasserie. Ils sont grands et parlent encore plus fort que leurs amis. L'un d'entre eux, à peine assis, se relève soi-disant pour aller aux toilettes. Mais sur le chemin, s'arrête devant ta table. Il te fixe. Tu lèves brièvement les yeux vers lui, puis les réorientes vers le livre. Il reste planté là. Finalement, il s'adresse à toi. Il dit une ânerie du style « Elle dit quoi, la jolie petite dame ?» Alors tu relèves les yeux d'un air vraiment excédé, avec un regard assorti d'un soupir valant tous les dégâts du monde, mais il insiste. Évoque tes seins, et même tes fesses, qu'il ne peut pas voir, puisque tu es assise, mais qu'il imagine rebondies. Tu persistes à ne pas desserrer les dents. Il se met à te parler petit nègre. Toi pas française ? Toi pas comprendre ? Sa table est glousse, même le chien, te semble-t-il. Tu pries cet homme de te laisser tranquille. Tu supposes qu'il ignore combien tu es violente, alors tu tâches de lui expliquer, avec pédagogie, que dans les affaires humaines, il faut savoir écouter l'autre. Il faut entendre quand l'autre refuse la relation et se poser à soi-même une limite. Il te dit qu'il n'a pas de limite. Tu en déduis que c'est un homme violent. Dommage. Sur une étagère contre le mur, tout près de ta table, tu repères, aligné, des bouteilles de vin. Tu te lèves, te saisis d'une bouteille, la fracasse contre le bord de la table, la brandit en direction du cou de l'homme. Soudain, il ne rit plus. Sa tablée ne glousse plus. Personne ne fait plus rien. D'ailleurs, tout autour, ni rire, ni parler, ni boire, ni manger, ni servir. Le fracas du verre a figé tout le restaurant. Le vin qui inonde le plancher de la brasserie préfigure le sang à venir. Tu avances encore ton bras, appuie le verre tranchant contre la peau du type. Ce sera donc ton premier passage à l'acte. Peu importe ce qu'il te vaudra.
Le titre de la nouvelle dont Louise Hott vient de lire un extrait, c'est « Violente », Gaëlle Octavia. On la trouve dans le recueil « L'étrangeté de Mathilde T. » aux éditions Gallimard. Je disais qu'un autre des fils qu'on peut tirer entre vos textes, c'est la proximité de la violence, de la mort, de l'effroi, en chacune, puisqu'il y a beaucoup de personnages femmes, des personnages que vous écrivez. Elles ne sont jamais loin, et quand elles s'en approchent, elles n'ont pas de mal à le dire, quoi. Ou en tout cas, la narratrice n'a pas de mal à le dire. Je pense à une femme, une grand-mère, qui a d'abord les atours d'une grand-mère tendre et aimante, et puis qui n'est pas loin d'être une sorcière empoisonneuse à la fin de la nouvelle. Qu'est-ce qui vous intéresse là, dans cette violence en chacun de nous ?
Ah.
Est-ce que c'est aussi ce que vous travaillez?
Oui, tout à fait. Non, j'assume tout à fait. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est la relation et la difficulté qu'ont les êtres humains, en fait, d'être en relation paisiblement. La rencontre est rarement paisible. Il faut composer avec ce qu'est l'autre et ça se passe violemment, souvent. Alors, c'est pas toujours de la violence physique, comme dans le cas de cette nouvelle, mais il y a quelque chose, parce qu'on se sent peut-être en danger dans son identité, dans ses certitudes, je ne sais pas. Mais c'est la rencontre, en fait. L'être humain, malheureusement, semble assez difficile à contenir, difficile à
mais justement, une
apaiser.
Une manière de contenir ou d'apaiser ça, c'est parfois d'ignorer la violence en soi, ou en l'occurrence dans les personnages.
Oui.
J'ai l'impression qu'au contraire, il y a une forme de paix fictionnelle, en tout cas, Gaëlle Octavia, qui pour vous procède à aller y voir, en fait. Au contraire, allons y voir, quoi, avec les outils de l'écriture.
Oui, alors, oui, tout à fait. Alors, la violence, encore une fois, ne s'exprime pas toujours par des actes,
non,
mais elle est parfois...
Des pensées.
Parfois, ce sont des pensées, effectivement. Parce que ce que je décris, ce sont des rencontres bouleversantes, d'une certaine manière. Donc, ce bouleversement est déjà une violence. Et parfois, on y répond par une autre violence, effectivement.
Oui, et puis ça peut être, là, on entendait bien la question du passage à l'acte, mais il n'est pas du tout toujours question du passage à l'acte. Ça peut être l'idée d'un potentiel empoisonnement. Ça peut être plusieurs dizaines d'années de relations sourdes et conflictuelles entre deux sœurs. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas de... Mais c'est quelque chose qui sourd, on va dire.
Oui, je pense que c'est... Moi, je trouve ça intéressant, en fait, dans les relations de montrer ça et de voir ce que les gens en font, en fait, et l'ambivalence aussi qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, on peut avoir une forme de violence avec des gens qu'on aime, par exemple. Donc, la relation des deux sœurs dans cette nouvelle-là.
Ou la relation du couple, où une femme est avec un homme qui vient de subir deux AVC et elle se réjouit de ces deux AVC qui lui offrent une nouvelle vie.
Oui, absolument, parce que effectivement, dans la relation, il peut y avoir une forme de lutte parce que parce que ce qui fait du bien à l'un n'est pas ce qui fait du bien à l'autre. Et c'est vrai qu'entrer en relation avec un tiers, hein, quel qu'il soit, il faut prendre en compte ça. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour l'autre. Et il va falloir lutter pour qui va gagner. Il y a une boutade qui dit, par exemple, l'amour, c'est ne faire qu'un. Oui, mais lequel? Ou bien, c'est regarder dans la même direction. Mais oui, mais laquelle, en fait? Donc, il y a toujours, enfin, en tout cas, dans beaucoup de relations humaines, même les relations amicales, il y a parfois une lutte sourde. Alors, il y a souvent un dominant et un dominé. Parfois, le dominant ne se rend pas compte, hein, de la lutte. Parce que c'est lui qui écrase l'autre sans effort, donc il ne se rend pas compte que l'autre, en fait, est mal à l'aise. Et moi, j'aime bien aussi sonder le malaise du dominé, évidemment, qui est pour moi plus intéressant que la posture du dominant.
Justement, j'allais vous interroger sur le plaisir de l'écriture. On entendait quasiment la voix gourmande de Gilbert Cesbron parler de voilà, tout ce que tu vis, tout ce que tu regardes, peut-être une aventure de fiction et d'écriture. Est-ce qu'il y a une jouissance, Gaëlle Octavia, à écrire une femme qui pète une bouteille de vin et qui, d'un seul coup, a un tesson de bouteille et qui est prête à menacer un type malotru dans un bar, puisqu'on peut considérer, je sais pas, c'est une hypothèse que je fais, que vous l'avez pas fait vous et que vous avez pas égorgé un type dans un bar, par exemple. Mais
alors je l'ai pas fait, mais j'ai
mais
vu ces bouteilles. Non, vraiment, j'ai eu 13 ans. En fait, alors c'est peut-être les nouvelles les plus autobiographiques du recueil, c'est-à-dire que j'ai vécu cette situation et j'ai vu ces bouteilles. C'est effectivement un bar où il y avait une espèce d'alignement de bouteilles. Et évidemment, je ne suis pas une personne violente, donc je ne me suis pas saisie de cette bouteille, mais je me suis dit que ce type, qui était donc quand même, qui était dans une forme d'agression verbale,
qui était misogyne et raciste,
c'est-à-dire on avait quand même fromage et dessert avec lui. Je me suis dit, je ne vais pas le faire, mais il aurait mérité, il mérite, je lui souhaite sincèrement de croiser une femme qui sera un petit peu plus violente que moi. quelqu'un qui le remette à sa place.
Vous dites on a fromage et dessert avec humour, Gaëlle Octavia, mais il se trouve que là, par exemple, dans cette nouvelle-là, il y a en effet le croisement d'une violence verbale misogyne et raciste. Et en fait, à vous lire, j'ai eu l'impression que souvent, il y avait ce qu'on appelle dans les sciences humaines la question d'intersectionnalité, c'est-à-dire plusieurs violences, le croisement de plusieurs violences dans la nouvelle Marie, par exemple. En effet, ben, il pouvait y avoir à la fois un rapport de classe, éventuellement un rapport de race, même s'il n'est pas tout à fait d'ailleurs sur le même plan que d'habitude. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui vous place à cet endroit-là, même dans une nouvelle encore plus fantastique. Kalachnikov bébé, il y a un petit être qui apparaît mystérieusement dans la chambre d'une petite fille et elle pense à l'Africain, et voilà, même chez les enfants, comme si la fiction vous permettait aussi de travailler ces questions politiques.
Oui, bien sûr. Alors, je n'écris pas avec un projet de type pédagogique où je vais expliquer, où je vais défendre, où je vais... C'est pas ça. Mais ce sont des questions qui, évidemment, traversent ma vie, tout simplement, mon expérience sociale. Je suis une femme noire, donc je suis confrontée à tout ça. Et mes personnages me permettent... Alors, par exemple, dans une nouvelle comme Violente, alors, tout simplement, il y a quelque chose de absolument cathartique à écrire cette scène que je n'ai pas vécue, ce passage à l'acte que je n'ai pas fait, d'inventer un personnage qui passe à l'acte. Là, au moins, je ne suis pas passée à l'acte.
Il y a la littérature comme autodéfense.
Ouais. Ah oui, mais il y a quelque chose de très libérateur. Et voilà, ce type, quelque part, je lui ai réglé son compte à l'écrit. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça, c'est sûr. Hein, ça m'a guéri de cette mauvaise expérience, ça c'est certain. Donc voilà, il peut y avoir de ça. Et puis, il peut y avoir tout simplement des questionnements qui m'accompagnent et que je digère à travers l'écriture.
Oui. Et puis, comme vous dites aussi, il n'y a pas de projet pédagogique. Mais ce qui est intéressant, c'est que par une nouvelle de 3-4 pages, sans soumettre de thèse, vous proposez aussi aux lecteurs et aux lectrices d'éprouver ces violences, oui, qui sont à la croisée des chemins de différentes violences. Et peut-être sans avoir l'étiquette de « je vais vous expliquer ce que c'est que l'intersectionnalité », peut-être sans le dire, s'en approcher de ces questions-là.
Tout à fait. J'espère en tout cas que les lecteurs, quels qu'ils soient, arrivent à se mettre dans la peau de mes personnages. On sont suffisamment en empathie, qu'ils y croient suffisamment et qu'ils vivent suffisamment ce qui se passe
pour prendre un peu de tous les malaises ou de toutes les émancipations.
Oui, en tout cas, voilà, avoir un petit aperçu de ce que c'est. Oui.
On va écouter un autre extrait de votre recueil. Cette fois, c'est la nouvelle Kalachnikov bébé. Je donne juste le contexte. Lorsque nous arrivons dans cette nouvelle, nous sommes dans une chambre d'enfant, la chambre d'une petite fille. Et il apparaît un petit être qui est une sorte de double masculin qui va s'appeler Capitaine. On est au milieu de la nouvelle.
Ce manège dure une semaine. Le jour, Capitaine t'entraîne. Sous son commandement, tu te sens plus forte. Tes muscles se révèlent. Ils seront très bientôt pareils aux siens. Solides comme du bois précieux. Intraitables, invincibles. Tes membres se découvrent une puissance insoupçonnée. Tu es heureuse. Tu deviens une grande, une championne. Le soir, tu es distante avec ton père, glaciale avec ta mère. Mais suffisamment docile pour qu'il ne proteste pas. Tu voles pour capitaine les restes de nourriture des plats que tu débarrasses. En quelques jours, il se remplume un peu, ce qui te ravit, car cela signifie que lui aussi se fortifie à ton contact. Un soir, capitaine est occupé à dévorer les victuailles subtilisées lorsque les pas de ta mère résonnent dans le couloir. Il lâche aussitôt la cuisse de poulet qu'il tenait entre ses doigts. Sa panique te fait rire. Bien qu'ayant toi-même préféré cacher sa présence, tu sais que ta mère fera ce que tu voudras et que Capitaine n'a rien à craindre d'elle. Tu tentes de le rassurer, ignorant de quoi il a peur exactement. Maman est gentille, elle n'appellera pas la police.
Un nouvel extrait, Gaëlle Octavia, de votre recueil de nouvelles. On est dans cette nouvelle qui s'appelle Kalachnikov bébé. l'une des nouvelles les plus étranges pour le coup. Je questionnais le mot étrangeté en couverture du livre, mais là c'est vrai que cette apparition-là, sans explication, sans psychologisation, reste dans son grand mystère. Il y a des pistes, l'idée d'un enfant double, l'idée peut-être d'une présence nocturne, l'idée d'un double masculin aussi pour cette petite fille. Toutes ces pistes que vous explorez par la fiction.
Oui, alors...
Est-ce que vous, pour vous, le mystère est moins grand que pour nous ?
Peut-être, parce que moi, ça ne me dérange pas, en fait, qu'il se passe des choses... Enfin, c'est-à-dire, pourquoi pas ?
Pourquoi pas un enfant qui apparaît dans la nuit
à un autre enfant ? Pourquoi pas un enfant qui apparaît dans le placard d'un autre enfant ? Non, moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était que ces deux enfants-là se rencontrent. Même si, effectivement, on peut se demander si cet enfant, ce petit garçon, est réel ou pas, si c'est un fantasme. Mais j'avais envie qu'ils se rencontrent. Et encore une fois, j'avais envie entre eux d'une forme de dialogue inattendu. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans quelque chose voilà, que ça soit pas la petite européenne ou la petite occidentale qui va aider le petit africain ou quelque chose de ce genre. Je voulais qu'il y ait de la curiosité, une curiosité mutuelle.
Et qu'ils prennent des forces l'un à l'autre.
Voilà, qu'ils partagent réellement quelque chose. Et en même temps, parce que moi j'aime bien quand les rencontres sont problématiques, qu'il y ait quelque chose de problématique et aussi une violence sourde, mais qui est la violence du monde. Je suis peut-être particulièrement sensible au fait que les enfants, plus que tout le monde, je veux dire une banalité, sont innocents de l'état du monde et ils naissent quelque part et ça détermine des tas de choses. Encore, les adultes, on peut dire qu'ils ont voté, qu'ils ont cherché, qu'ils ont mal voté, qu'ils ont déconné, qu'ils ont porté au pouvoir des gens qu'ils n'auraient pas fallu porter au pouvoir, qu'ils ont une toute petite responsabilité, quoique... Enfin, je veux dire, elle est pas toujours... c'est pas aussi simple que ça, souvent, mais... Voilà, mais
un enfant... Ils sont aussi nés quelque part, ces gens-là.
Voilà, ils sont aussi nés quelque part, absolument. Ils ont aussi un bagage, etc. Mais c'est vrai qu'un enfant... Et c'est vrai que l'enfance, selon que l'on naisse dans un endroit ou un autre, mais ça ne veut tellement pas dire la même chose, en fait. Et c'est...
Vous parlez beaucoup de relations, et c'est intéressant comme vous glissez souvent, Gaëlle Octavia, de la question de la violence qui est présente, sous quelque forme que ce soit dans les nouvelles, à la question de la relation. Dans une nouvelle, deux amis s'écharpent par voie de messages privés sur les réseaux sociaux, sur la légitimité à poster des documentaires, à se réclamer de l'histoire, par exemple, de la nouvelle Calédonie ou de la Martinique, Frantz Fanon. Bon. Et en fait, la narratrice en appelle à une algorithmique de la relation. Et là, vous parlez aussi du dialogue. Et puis peut-être on peut relever, là, dans les deux nouvelles, vous utilisez l'adresse, le tu. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est qui semble être ça aussi un fil, quoi. L'idée de des archipels reliés, de faire signe à l'autre, y compris quand c'est conflictuel, qui semble vous intéresser.
Oui, alors bon, c'est peut-être un petit peu naïf de ma part, mais moi j'y tiens à cette idée quand même, malgré tout, malgré l'histoire, malgré les conflits géopolitiques, qu'il faille s'accrocher à ce qu'on a de commun, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains. J'aimerais qu'on veille en permanence. Je ne sais pas si moi-même j'arrive à le faire. À éloigner l'idée que l'autre soit foncièrement différent. Essayer de faire confiance, en fait. Essayer de se dire, en fait, l'autre, il est comme moi, il a envie de vivre une vie... c'est pas mon ennemi. J'ai horreur de l'idée d'ennemis héréditaires, par exemple, ou de gens qui soient intrinsèquement, ontologiquement ennemis. Pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment difficile. Et j'aime l'idée qu'on s'accroche à ce qu'on a de commun, même quand c'est tout petit, même si quand c'est rien du tout. Or, les réseaux sociaux, le fonctionnement des réseaux sociaux, dont je suis une utilisatrice, comme beaucoup de gens...
Cherche des antagonismes forts.
Mais c'est-à-dire que les algorithmes créent ou amplifient les antagonismes. C'est le fonctionnement, c'est-à-dire que c'est même pas un truc... j'ai presque envie de dire qu'on peut pas lutter. L'algorithme est conçu comme ça, parce que... Et c'est extrêmement cynique, parce que ces algorithmes, ces réseaux sociaux qui sont gratuits, ils enrichissent des gens qui sont... et en gros, schématiquement, je vais faire un gros raccourci, mais ça marche mieux pour enrichir les gens si ça fonctionne comme ça. Voilà, pour enrichir les gens que ça enrichit. Si ça fonctionne comme ça, si ça polarise, en fait, les algorithmes nous polarisent et nous campent dans nos différences et dans nos... Dans le « nous » et le « eux ».
Mais je renvoie à des pages brillantes dans le dernier roman de Nathan Hill qui s'appelle « Bien-être » et qui fait comme ça, en plein milieu de la fiction et du roman, une démonstration implacable de ce fonctionnement-là. On va écouter la voix de Christian, auditeur du Book Club. Il a lu votre recueil, Gaëlle Octavia, et vous avez lu avant. Alors, vous avez mentionné que vous étiez venu depuis la Martinique jusqu'à la France hexagonale pour étudier. Il vous pose la question de l'équilibre entre vos deux territoires.
Bonjour le Book Club, bonjour Gaëlle Octavia. J'ai retrouvé dans L'étrangeté de Mathilde T les mêmes qualités qui m'avaient tellement plu sur vos romans précédents, en particulier les rapports entre la Martinique et Paris, puisque vous êtes aussi bien parisienne que martiniquaise. Et ça m'amène à vous poser la question suivante. Comment concevez-vous l'équilibre littéraire entre ces deux régions qui sont les vôtres. Merci de votre réponse.
Merci à vous, Christian, pour cette lecture et cette question, Gaëlle Octavia, des régions qui seraient les vôtres et qui s'équilibreraient dans votre écriture.
Oui, merci pour cette question. Beaucoup de choses que j'explore dans mes textes sont des questionnements qui sont nés en Martinique. Donc même quand les textes se situent en France hexagonale, par exemple mon premier roman, la fin de Mambabi ne se situe pas du tout dans la Caraïbe, mais c'est un roman qui naît de questionnements que j'ai commencé à concevoir dans mon enfance en fait. Donc ce sont deux territoires qui m'habitent. Et qui cohabitent ou qui se superposent. Par exemple, encore une fois, le quartier dont il est question dans la fin de Mambabi, c'est un mélange, et j'ai fait exprès, je veux dire, même architecturalement, j'ai mélangé un quartier d'Evry où j'ai vécu, la ville d'Evry, donc en région parisienne, où se situait mon école d'ingénieur, où j'ai donc étudié, et de mon quartier d'enfance en Martinique. Donc, cet équilibre, chez moi, il est assez naturel, d'autant plus que je ne m'encombre pas de prétendre d'écrire le réel avec exactitude. Mmh. Donc, je me permets des emprunts, des inventions. Je me permets de créer des territoires hybrides. Donc, ça se fait. Je fais ça avec un certain bonheur, parce que c'est ce que je suis, effectivement. Je suis... très, très, très martiniquaise et très, très, très parisienne.
Et il y a un autre équilibre, peut-être, sans qu'il apparaisse, en tout cas, dans ce recueil-là, du tout à 50-50 sur la balance, mais c'est la présence de quelques mots de créole qui ponctuent certains textes. C'est aussi une façon de faire vivre ce territoire-là, ou un des territoires, dans le texte, Gaëlle Octavia ?
Oui, d'autant plus que le créole et le français ne sont pas des langues équivalentes pour moi. Ne le sont pas dans l'absolu, d'ailleurs, pour les locuteurs du créole en Martinique, en tout cas, puisque le français est la langue officielle, le français est la langue qu'on apprend à l'école. Donc, ce sont des langues qui ont des statuts différents. Et ce qui fait aussi que ce sont des langues qui ont des... Comment dire voilà, quand on a la nécessité de parler créole, le français ne peut pas remplacer, en fait, ce qu'on va dire en créole. Il y a des moments, moi, en tant qu'autrice, en fait, je mets pas du créole pour le plaisir de mettre du créole ou pour, en me disant, on va mettre une petite pincée exotique ou, c'est vraiment qu'à ce moment-là, il y a rien en français qui rendra mieux. Mmh. Donc, je me sers du créole.
De la même manière, quand surgit la forme poétique ou le haïku, oui, c'est parce que la nécessité de l'écriture l'impose.
Oui, pour moi, c'est comme ça que ça vient, oui.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et le Book Club continue avec une toute autre Mathilde que votre Mathilde T, Gaëlle Octavia, puisque c'est Mathilde Wagman. Salut Mathilde.
Bonjour Marie.
15h50, le mercredi, on vous retrouve pour parler littérature qui s'adresse aux plus jeunes d'entre nous. J'espère qu'ils sont nombreux, ces jeunes gens et ces jeunes oreilles. Aujourd'hui, vous vous lancez dans une typologie de personnages d'albums pour enfants.
Oui Marie, j'aime dans cette chronique réfléchir parfois à la littérature jeunesse en termes de typologie formelle. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une figure que l'on retrouve dans de nombreuses histoires, une catégorie de personnages que j'appellerais volontiers les grands ronds tout mous. L'archétype nous en est donné par les Barba Papa, créés dans les années 70 par Annette Tison et Talus Taylor, ou encore par les Moomin de Tove Jansson, ou Totoro, le personnage dessiné par Hayao Miyazaki pour le film de 1988. Ce type se définit avant tout par une forme graphique. C'est un personnage très grand, voire géant, tout en rondeur. Rondeur qui donne envie de se blottir au creux de ses bras, de lui faire un gros câlin. Mais je voudrais vous parler aussi d'une deuxième catégorie de personnages, à savoir les monstres poilus. Les maxi-monstres de Maurice Sendak, le Gruffalo de Julia Donaldson et Axel Scheffler, les cauchemars de Monstres et Compagnie du dessin animé Pixar, ou encore, pour citer une référence francophone, le monstre poilu de Henriette Bichonnier et Pef. Ce qui est intéressant pour cette catégorie-là, c'est que les caractéristiques graphiques s'accompagnent aussi d'un mouvement narratif. Très souvent, les récits qui mettent en scène des monstres poilus racontent l'histoire d'un personnage d'abord effrayant, avant de se révéler pour finir tout à fait gentil, et l'on réalise que la peur s'était nourrie d'elle-même en quelque sorte, et non de la nature du personnage. Si je vous parle de ces deux catégories, c'est qu'un album tout récemment paru nous offre un personnage à la croisée de ces deux types. Il met en scène un grand tout mou qui est aussi un monstre poilu. Le livre s'appelle Chamallow. Il est signé de la coréenne Lee Ji-hoon et apparu aux éditions Les Fourmis Rouges.
Chamallow, qui est un titre aussi mignon que savoureux, ça désigne quoi ?
Chamallow, oui, au pluriel avec un X, c'est en réalité le nom de toutes petites créatures blanches, des sortes de petites boules rondes dotées d'un chapeau noir qui vivent dans un paisible village, dans des maisons qui ressemblent à des champignons comme dans les Schtroumpfs. Les chamallows sont mignons, les chamallows passent leur journée à cueillir des fruits pour les déguster au soleil couchant, les chamallows vivent en paix, jusqu'à ce qu'un jour, un cri perçant ne brise la tranquillité de leurs existences. Chamarodant, miaï, miaï, un monstre aux poils noirs et aux grands yeux blancs apparaît au loin dans la forêt. Il est massif, inexpressif, est doté de 4 petites pattes et de 2 oreilles et est vraiment gigantesque. C'est d'abord ce cri qui effraie les chamallows. Je vous lis les quelques pages qui voient le monstre faire son entrée dans l'album. « Miaï, miaï, chamarodant ah, c'est tout poilu, ça fait peur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il parle !» Et dans une succession de cases qui représentent chacune un chamallow, se grattant la tête pour percer le mystère de ses onomatopées, chamarodant miaï, chama, chamaro, chama, miaï, miaï, miami, amiami, chamami. Ah, je crois qu'il dit qu'il adore les chamallows. Chamallow, miam, miam.
Vous êtes si forte.
Partant de là, les chamallows vont sombrer dans la terreur du monstre. S'imaginer qu'il les fait grésiller en brochette sur le feu, ou les déguster, immergés dans un chocolat chaud. Il s'imagine son poil dru, son regard méchant, ses griffes acérées, terrifiant. Il décide alors d'entrer en résistance. La campagne militaire se déroule en 3 temps. 1. Ils bombardent le géant de leurs fruits préférés, mais le monstre l'échouille la pulpe écrasée sur son museau avec délectation. 2. Comme les Lilliputiens face à Gulliver, ils immobilisent la créature en l'enroulant d'un fil de laine, mais le géant défait ses liens en un clin d'œil. 3. Ils décident de l'attaquer à la boule de feu. C'est alors que l'un des chamallows, téméraire, entreprend d'aller le voir de plus près. Ayant réussi à se hisser sur la tête du géant, il se retrouve sous le feu des catapultes et se réfugie dans la bouche du monstre. Alors que ce dernier continue d'hurler sa rengaine, « Chamarodant, miaï, miaï !» le petit chamallow lui intime de parler plus lentement et d'articuler. Le géant ouvre grand, une bouche qui, découvre-t-on, contient de très nombreuses dents, dont l'une est noircie. Et la créature de dire, dans un sanglot, « J'ai mal aux dents, aïe, aïe !» C'était donc ça. Le géant n'avait aucune intention belliqueuse, il avait juste besoin d'un dentiste. Les chamallows soignent la carie, et le géant de lancer pour finir d'un air ravi, « Chat plus maraudant
!» Donc on comprend que c'est le travail sur l'oralité. Franchement, je dois quand même vous tirer mon chapeau, parce que faire ce que vous venez de faire à la radio en direct, c'est costaud Mathilde, mais c'est ça qui vous a séduit.
Oui, c'est le plaisir de la lecture. Le plaisir de la lecture de cet album tient essentiellement à la joie qu'éprouvera l'adulte l'adulte qui le lira à voix haute à l'enfant, joie communicative si l'adulte y met suffisamment d'entrain. Je me suis demandé quels pouvaient bien être les termes coréens que traduisaient les mots français chat maraudant, miaï miaï. L'éditrice Valérie Kusagem a confirmé qu'il avait fallu de longues semaines de travail et d'échanges avec la traductrice Lim Yong-hee pour arriver à cette expression-là, le chat maraudant étant en effet en coréen une expression absolument intraduisible, onomatopée qui suggère le mal de dents sans que la chose soit non plus trop évidente. La traduction littéraire est toujours un travail de création. La chose est particulièrement décisive, me semble-t-il, dans le domaine des albums pour enfants, où l'oralité est centrale. Grâce soit rendue aux traductrices, traducteurs, éditrices, éditeurs qui inventent et veillent avec patience et acharnement au passage d'une langue à l'autre.
On rappelle le titre ?
Ça s'appelle « Chamalou » de Lee Ji-hoon, traduit du coréen par Lim Yong-hee aux éditions Les Fourmis Rouges.
Gloire à vous ! Lecture jeunesse, Mathilde Wegman à réécouter sur franceculture.fr. Et à cette heure-ci, dans le Book Club, on joue à un grand jeu. Il s'appelle le grand jeu des pages musicales. On vous invite, auditeurs, auditrices, à jouer avec nous. Le principe est simple. Vous êtes tranquillement en train de lire dans le métro, comme Gaëlle Octavia ou ailleurs, et vous repérez, l'évocation d'un air musical dans une page, quelle qu'elle soit. Vous faites une photo de cette page et vous l'envoyez à Alexandre via le compte Instagram du Book Club ou à nous, lebookclub@radiofrance.com. Nous, on a toute une collection comme ça de pages musicales et on choisit tous les jours dans ce beau panier. Aujourd'hui, c'est Elisabeth qui joue avec nous. Elle nous a envoyé un mail. Elle a choisi un extrait d'un recueil de nouvelles. Justement, le recueil s'appelle « Après ». Il est signé Annie Saumon. Il est paru en 1996. La nouvelle s'appelle « Les enfants s'ennuient le dimanche ». J'aimerais bien échanger un samedi soir usagé contre un dimanche matin. C'est ce que dit Charles Trenet, tout le monde connaît je suppose, et ce que nous aussi on dit le samedi soir. Et puis le dimanche on s'emmerde. Voilà pourquoi j'ai écouté un des balèzes de la cité juste en face, les Brunières. Et par miracle, ceux d'en face sont pas des salauds, plutôt des potes dans l'ensemble. Voilà donc pourquoi celui-là, quand il est venu chez nous raconter que le dimanche, il tira au champ et nous conseillait une descente, mes copains et moi, on a flashé. Ce serait comme un jeu télé à qui choisirait les trucs les plus chers. Faudrait se garer des videurs, les patrons aiment pas les démarques inconnues. Des mots qu'ils emploient pour le fric perdu quand s'envolent les marchandises sous surveillance de caméras tellement top modèle que rien devrait leur échapper. On se marre. N'y va les gars ? Les gars ont dit oui, ils y allaient. Et ils y allaient joyeux, comme à la teuf.
J'aimerais bien échanger un samedi soir usagé contre un dimanche matin plein d'entrain. J'inviterai mes amis à me suivre au paradis sur une route chaude et nue à midi. Si nos jambes tombent en panne, nous monterons sur un petit âne comme au temps de Jésus, notre ami. J'aimerais bien échanger un samedi soir usagé contre un dimanche matin plein d'entrain. J'échangerai mon château contre une part de gâteau si je retrouve en même temps mes 8 ans. Si je retrouve mon grand frère, ça sera une bonne affaire. Avec lui, j'ai toujours su quoi faire. Nous jouerions.
Charles Trenet, pour terminer ce book club aujourd'hui, un grand merci, Gaëlle Octavia.
Merci
d'avoir été avec nous. Le titre de votre recueil de nouvelles, L'étrangeté de Mathilde T et autres nouvelles, apparu aux éditions Gallimard. Au son aujourd'hui, c'était Noé Chaban, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du book club qui m'aide à penser et préparer ces émissions. Louise Hott, Mathilde Wagman, Noé Margas, Léa Weisgruss, Jeanne Aléos et Alexandra Laibegovic qui poursuit avec vous la conversation sur le compte Instagram du book club.
On ne dit rien, que des changes, je ne voudrais pas mon ange, que tu te changes à mes...